découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Ambline, bonjour
Docteur
à tous.
Docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio, comme chaque lundi de 10h à 11h. Merci d'être avec nous. Docteur, vous avez passé un bon week-end? Tout va bien?
Oui, bah oui, un peu plus vieux, mais sinon, de toute façon, j'avais beaucoup de travail, donc ça ne m'a pas frustré.
Eh bien oui, on va continuer évidemment de parler des contaminants. Hein. C'est le thème que vous avez choisi pour cette nouvelle saison. Comment se protéger de la pollution aérienne extérieure? On avait commencé à voir comment nous sommes chaque jour supplémentés par des dizaines de milliers de polluants dans l'air extérieur. On ne peut pas s'arrêter de respirer, même si l'air est malsain. Alors, comment se protéger, docteur?
Alors, tout d'abord, je dirais que le sujet, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le sujet qui m'a choisi, parce qu'on est tellement pris par ce phénomène. Maintenant, même les médecins qui n'étaient pas habitués à trop s'en préoccuper, parce qu'ils n'ont pas de formation sur la question, sont maintenant très mobilisés, enfin très concernés, je pense, pour la plupart. Alors tout d'abord, comment se protéger pour l'air? J'ai pas voulu continuer le catalogue des horreurs sans donner quand même des clés pratiques pour se protéger. Hein. Donc d'abord, par quelques stratégies, des choses de bon sens. Hein. Par exemple, c'est bien d'habiter dans un endroit riche en arbres, en espaces verts de toutes sortes. Pourquoi? Parce que les plantes jouent de multiples rôles dépolluants. L'air est de loin le plus sain. C'est l'air, vous en doutez, non pas des villes, non pas des champs, mais encore moins autour des autoroutes, des voies de métro, de chemins de fer, des gares, des aéroports, des usines, évidemment, mais dans les forêts, hein, qui de plus sont, comme vous le savez, tous à l'origine de l'oxygène, qui nous est indispensable. Bon, il y en a aussi la moitié qui vient du plancton marin et qui réabsorbe le CO2.
Est-ce qu'on a des preuves concrètes? Est-ce qu'on a des preuves concrètes du rôle dépolluant des arbres, des plantes, etc.?
Ah oui, la NASA même a étudié la question parce qu'ils étaient concernés par le fait qu'évidemment, il faut recycler l'air dans les vaisseaux spatiaux. Donc on a des études sur des plantes dépolluantes, plus ou moins dépolluantes, par exemple l'hyère que tout le monde connaît. Alors, quand je vois le prix du mètre carré dans les villes où l'air est le plus pollué, finalement, où il y a tellement de bruit, d'agitation stressante, qui est tellement supérieur au prix du mètre carré à la campagne, ça m'interroge. Parce que moi, on pourrait me payer même des sommes importantes pour habiter à Paris. Personnellement, moi, je déclinerais l'offre. Et puis, bon, dans les villes, on est heureux de voir de plus en plus de gens courir ou à vélo, mais c'est pour courir en ville, c'est quand même pas l'idéal. Hein. Aller même à Paris, il y a des bois, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, ou au moins dans les parcs ou les jardins.
Mais courir en ville, c'est vraiment contre-productif en termes de santé respiratoire?
Écoutez, je pense qu'au moins, il faudrait se protéger avec des masques, on va le voir tout à l'heure. Hein, il y a des possibilités, mais bon, à Paris, on peut prendre son vélo et aller dans les bois alentour, c'est pas très loin. J'ai vu que, par exemple, vers l'ouest, là, pas loin du bois de Boulogne, ils ont mis un compteur de cyclistes, ils en ont comptabilisé déjà à cette époque-ci près de 300 000. Il y a 300 000 personnes dans l'année, c'est formidable. Donc, si vous voulez, bon, c'est très bien, mais il y a ce problème de l'air qui a fait beaucoup de progrès grâce à notre maire, hein, qui a réduit la circulation dans Paris, mais bon, c'est toujours pas parfait, loin de là. Alors, les autres conseils pratiques qu'on peut donner, par exemple, on sait tous qu'une des sources majeures de pollution de l'air, c'est les véhicules.
Oui.
Donc éviter d'acheter un véhicule diesel, dont les gaz d'échappement sont les plus polluants que de tous, pratiquement. Bon, pour les véhicules à essence, plus on enrichit en bioéthanol, hein, qui est, comme vous le savez, dérivé de céréales, de résidus de céréales, de betteraves, plus on réduit non seulement les particules fines, mais aussi les émissions carbonées. Donc c'est un bon plan. Il y en a 10% dans l'essence, la fameuse essence que tout le monde connaît, je pense SP95E10 pour 10% d'éthanol, jusqu'à de 60 à 85% dans le super éthanol E85. Alors évidemment, il faut avoir un moteur qui l'accepte, cette dernière étant associée à une réduction de 90% des particules fines. Hein, ça serait déjà une solution. On voit beaucoup de bus et de camions de transport qui utilisent ce biocarburant. Mais bon, à un moment ou à un autre, on sort de sa voiture. Bon, elle est entourée des gaz qu'elle a émis, donc on est les premiers bénéficiaires de cette mesure. Bon, évidemment, elle profite aussi à tous. Alors, on a parlé aussi beaucoup du GPL, mais malheureusement, vous avez vu qu'il n'a pas tellement pris, parce qu'il se sent, il semble pas du tout aussi prometteur qu'attendu, et décevant à tous les niveaux. Donc, je pense que ça ne va pas se développer.
C'est pareil, c'est très polluant.
Ben, c'est moins polluant que l'essence, mais c'est beaucoup moins intéressant que prévu, quoi. Alors évidemment, passer à la voiture électrique, c'est la mesure la plus radicale. Même sur le plan écologique, comme on l'a beaucoup entendu, mondial en tout cas, si tu fais des extractions de lithium, de terres rares, ça nécessite des gros progrès de conception et de fabrication, parce que là, c'est un coût trop élevé par ailleurs. Et aussi bien qu'elle émette encore des particules aussi. Mais pourquoi ? Parce que la source principale des particules n'est pas forcément le pot d'échappement, mais plus l'usure des freins et des pneus, qui existent aussi pour la voiture électrique. Et d'ailleurs, j'ai appris que les pneus des voitures électriques étaient plus stressés que les pneus des voitures à essence.
Ah bon ?
Oui. Bon, certaines études trouvent encore plus de particules fines émises par les freins et par les pneus, donc que par les pots d'échappement. Il faut aussi dire que ces émissions-là ne sont pas réglementées. Il y a évidemment eu, on a tous entendu parler du Dieselgate et de tout ça, des règlements sur ce qui sort des pots d'échappement, mais en ce qui concerne les freins et les pneus, qui sont une source supérieure dans la plupart des cas, il n'y a pas de réglementation. Or, on estime à 20 000 tonnes les garnitures de freins usées par an, en France seulement, dont 9 000 tonnes sous forme de particules qui flottent justement dans l'air. Tous ces polluants, ben, on les inhale, ils polluent aussi les eaux, les sols, les plantes, les animaux, ils nous sont retournés donc sous forme d'autres formes. Donc tout ça, la facture est très élevée de ce point de vue-là, et donc c'est intéressant d'essayer de progresser sur le plan des matériaux qui sont utilisés pour faire ces plaquettes de frein et les pneus. Ça, je vous propose de parler maintenant. Par exemple, j'ai appris que, je ne le savais pas parce que bon, ce n'est pas ma compétence, mais qu'on met dans les pneus pour les renforcer ou dans les plaquettes de frein des métaux. Hein, par exemple, du cuivre, du fer. Et alors, ces métaux sont très violemment inflammatoires. Évidemment, ils se trouvent aussi dans les particules qui flottent dans l'air. Alors, il existe déjà des matériaux sans cuivre, une technologie qui s'appelle écofriction, encore mieux en céramique, mais ce n'est pas obligatoire, loin de là. L'utilisation accrue des freins dits régénératifs dans les véhicules hybrides électriques récupère une partie de l'énergie cinétique pour recharger la batterie, ce qui réduit beaucoup l'usure des plaquettes et donc l'émission de particules. Alors, on sait faire aussi d'ailleurs avec les voitures à essence, freins moteurs, avec un changement de vitesse, en rétrogradant. C'est aussi donc un argument en faveur des véhicules hybrides ou électriques. Alors les pneus qu'on a évoqués, vous vous rendez compte qu'on en vend plus de 2 milliards sur Terre chaque année. Ils sont constitués de caoutchouc synthétique, avec des proportions variables de caoutchouc naturel, un truc qu'on appelle du noir de carbone, de l'huile. Mais au total, il y a 400 produits chimiques, dont beaucoup sont carcinogènes, d'autres perturbateurs endocriniens. Alors le plus préoccupant d'entre eux s'appelle 6-PPD-q.
Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ?
c'est un produit très toxique, même pas seulement pour nous, mais pour l'environnement. On a montré par exemple que le saumon en mer est extrêmement atteint par ce genre de polluants. Quant au caoutchouc synthétique, il est une source majeure de particules fines. Les pneus émettent en effet 6 millions de tonnes de particules par an.
C'est énorme.
Mais c'est encore plus impressionnant, vous allez voir, Omblin, avec ce qu'on fait au kilomètre. 1000 à 10 000 milliards. Le nombre de particules fines et ultra fines, entre 10 microns et 7 nanomètres, mise en suspension par les pneus d'une voiture à chaque kilomètre parcouru.
Mais c'est ça impressionnant niveau chiffres. Est-ce que vous pensez que le grand public est suffisamment informé à ce sujet?
Ah, pas du tout. Mais même les médecins, on n'a pas de cours sur la médecine environnementale. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une très nette sous-information. D'ailleurs, moi-même, j'ai appris énormément de choses en préparant cette émission. Donc, choisir des pneus dans lesquels la proportion de caoutchouc synthétique est plus faible, ou nulle d'ailleurs, serait un meilleur choix. Vous allez voir qu'on a des choix. Donc, nous, en tant qu'acheteurs de voitures, de pneus, on peut faire des choix qui réduisent notre exposition personnelle, notre famille, et celle des autres, à tous ces polluants aériens. La plupart d'ailleurs des grands fabricants s'y mettent. Hein. Ils proposent des pneus, dit un peu abusivement, pneus verts, mais enfin déjà quand même un peu moins polluants. Par ailleurs, quelques constructeurs pionniers ont développé des nouveaux pneus constitués de plus de 70% de matériaux biosourcés recyclés, mais encore très peu présents sur le marché.
Est-ce que c'est viable ? Est-ce que sur le long terme, c'est durable ?
On va voir. Vous savez, après, ça dépend de plein de choses, du coût, de l'intérêt. Je ne suis pas compétent pour vous dire, mais voilà, il y a des pistes. Bon, les fabricants de pneus mènent leurs propres études sur ce fameux 6PPD dont on a parlé tout à l'heure, recherchent des alternatives. 10 des plus grands fabricants mondiaux ont créé le Tire Industry Project afin de développer une approche globale pour mieux comprendre et promouvoir des mesures d'atténuation de la pollution des pneus. Cette initiative devrait être fortement dynamisée par les gouvernements. Mais à ma connaissance, c'est seule la Californie qui est souvent en tête. Hein. Par exemple, la Californie a exigé de Coca-Cola qu'il baisse le colorant qui s'avère un dérivé de l'ammoniac qui est carcinogène. Partout ailleurs dans le monde, non. Mais là, donc, la Californie a exigé des fabricants qui recherchent une alternative au 6PDD et s'apprête à l'interdire dès 2026. L'année prochaine,
on est
à 4 mois, en fait. Certains fabricants s'orientent vers d'autres solutions. L'utilisation d'huile de soja dans les pneus, d'autres vers des amidons de maïs. Certains même, c'est, je sais pas si c'est folklorique ou si ça va être sérieux, mais vers des tiges de pissenlit.
Ok, pourquoi pas.
D'autres vers des concentrations plus élevées en silicium. Mais l'avenir réside assez probablement dans une innovation réalisée à la fameuse université de Harvard. Tout le monde a entendu parler de Harvard, qui est vraiment l'université la plus fameuse au monde, où on développait un caoutchouc quasiment inusable, un truc qui s'appelle le tanglomère. Alors qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'est que les polymères sont cette fois-ci entrelacés physiquement, mais pas chimiquement, et le résultat, c'est qu'ils sont 10 fois plus résistants que les pneus classiquement vulcanisés. Ils sont de plus faciles à recycler que les pneus classiques. Bon, il est clair que le gouvernement se doit de faire une priorité de ce type de recherche et de leur développement industriel.
On va faire une petite pause, Jean-Paul, et on continue évidemment, on reste sur les voitures, les pneus, etc. Ne bougez pas, à tout de suite.
Nutri-Therapy & Co, Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Et nous sommes toujours avec le docteur Jean-Paul Curtet. On parle des contaminants. Alors, on va rester sur les voitures, docteur.
Pour le moment, oui, mais après, on passera à autre chose. C'est que,
évidemment.
Pour rester d'abord sur la voiture, vous savez peut-être, vous vous rendez compte, je pense, qu'il y a beaucoup de plastique dans notre voiture, plus de 2000 pièces. Ça représente quand même 150 à 200 kilos du véhicule. C'est composé, relargue aussi, de très nombreux polluants, du phtalate, du formol. Bon, le phtalate, c'est un composé du plastique qui est un perturbateur endocrinien. Le formol, ça conserve bien les cadavres, mais c'est moins bon pour les vivants. C'est d'ailleurs l'origine de l'odeur très particulière. Vous savez, quand vous rentrez dans un véhicule neuf,
l'odeur
particulière. Oui. Alors, première conclusion pratique, simple, parce que c'est le but de cette émission, c'est donner des tuyaux. C'est un peu le cas de le dire pour la voiture. Achetez plutôt des véhicules d'occasion, d'au moins 6 mois, pas de véhicules neufs. En plus, vous ferez des économies et c'est certainement meilleur pour l'écologie mondiale. Lorsque je loue une voiture, moi, j'exige qu'elle ait au moins 6 mois, ce qui est assez rare chez les loueurs. Ils renouvellent, vous l'avez constaté, je pense, constamment leur parc. Par ailleurs, le rayonnement solaire dynamise fortement le relargage de ces polluants plastiques de l'habitacle. Deuxième conclusion pratique, essayez donc chaque fois que possible de ne pas garer votre voiture au soleil. Si cela n'a pas été possible, ce n'est pas toujours possible, en revenant, tout simplement, il faut ouvrir le coffre et toutes les portes quelques minutes avant de ne pas rentrer, pour ne pas rentrer dans un véhicule concentré en toxique. Vous voyez que c'est des choses assez simples, mais évidemment, si on n'est pas informé, on n'y pense pas.
Et sur l'instant,
on rentre dans un peu un sauna qui serait plutôt du type chambre à gaz.
Oui, c'est ça. Sur l'instant T, en fait, on n'y pense pas. Et quand on n'est pas au courant, forcément, on ne le fait pas.
Je pense que voilà, la plupart des gens ne sont absolument pas au courant. D'ailleurs, moi, je ne l'étais pas non plus il y a quelques années. Bon, c'est des choses qu'on accumule, mais qui devraient être communiquées, comme je le dirai tout à l'heure de nouveau, c'est à l'école primaire, carrément, puis, y compris aux professionnels de santé. Par ailleurs, l'air, il doit bien entrer de l'extérieur dans la voiture, hein, parce que sinon, ça arrête d'être fourni en oxygène. Et donc, il y a ce qu'on appelle des filtres d'habitacle qui permettent de réduire les polluants venus de l'extérieur. Alors, la fréquence du renouvellement de ces filtres, auxquels on ne pense pas, d'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que ça existe, dépend évidemment du nombre de kilomètres parcourus, mais aussi de l'intensité du trafic sur ces trajets. En tout cas, déjà au moins au contrôle technique, on devrait les changer, mais certainement plus souvent pour les gens qui roulent beaucoup et dans des embouteillages, etc. D'ailleurs, plus on mijote, vous en doutez, dans les encombrements, bon, les rues étroites, les autoroutes, plus on est exposé, mais on ne pense pas à les faire changer. Mais il y a encore mieux, hein, c'est de demander des filtres à charbon actifs. Troisième conclusion, choisir chaque fois qu'on le peut des horaires et des trajets moins fréquentés. Bon, comme je vous le disais, c'est beaucoup de bon sens. Hein. Il existe des applications alors à télécharger gratuitement sur son téléphone pour améliorer ses choix. Par exemple, Air2Go, disponible dans 5 régions françaises, hein, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Sud, Hauts-de-France, Grand Est et Normandie. Sinon, Air Matters informe sur la qualité de l'air, extérieur d'ailleurs et intérieur, dans plus de 180 pays.
Donc ça, c'est toujours une application, hein, Air Matters.
Voilà, c'est aussi une application qu'on peut télécharger sur son téléphone. Okay. Si l'air s'avère très pollué, bon, qu'on est bloqué dans des embouteillages, qu'on est derrière un véhicule dont le pot d'échappement émet un nuage, bon, ça t'est arrivé à tout le monde, je pense, que vous êtes cycliste dans des villes polluées, que vous passez dans des zones d'épandage de pesticides, bon, théoriquement, les agriculteurs sont censés nous prévenir, mais qui va sur son téléphone voir s'il y a un épandage en cours, bon, qu'il y a un feu de forêt ou simplement de l'éco-buage, vous savez, quand les gens brûlent leurs déchets végétaux au fond de leur jardin. Ben, il reste la possibilité, comme vous le savez, dans certaines voitures, vous appuyez sur un bouton, ça bloque les entrées d'air, mais il ne faut pas le garder très longtemps. Hein. Au bout d'un quart d'heure, vous accumulez trop de CO2 dans votre voiture et vous allez pas être très bien. Bon. Ou alors, il faut porter un masque. Alors, porter un masque.
Ouais. Dans les cas de pollution, lesquels sont vraiment efficaces et lesquels sont à éviter, du coup?
Alors, voilà, parce qu'il y a masque et masque. Hein. Oui. Les masques en papier ne filtrent pas les particules inférieures à 10 microns. Bon. Les FFP2, on en a tous bien,
on nous
a
bassiné bien.
Avec ces FFP2 avec la Covid, un filtre jusqu'à 0,6 microns, un masque normé N90 ne filtre que 90% des particules fines jusqu'à 0,3 microns, N95, 95%, etc. Mais vu les quantités auxquelles nous sommes exposés, 5 à 10%, c'est beaucoup trop encore. Et par ailleurs, les plus grandes quantités de particules et les plus toxiques sont encore plus fines que 0,3. C'est les fameuses nanoparticules dont on a parlé la semaine dernière. Les masques à choisir sont donc de normes FFP3, qui arrêtent 99% des particules, y compris les nanoparticules, mais pour la plupart, pas les gaz. Et beaucoup de masques laissent à désirer au niveau de ce qu'on appelle l'herméticité, c'est-à-dire ce qu'ils sont hermétiques, bien sûr, comme l'on l'indique. C'est-à-dire que tout simplement, entre le masque et la peau, ils laissent passer de l'air non filtré. Le meilleur que j'ai trouvé a été conçu en fait par des ingénieurs de l'école polytechnique dont la technologie est encore supérieure à FFP3. D'abord, ils ont une mousse à mémoire de forme qui permet une excellente herméticité. Ensuite, ils bloquent les particules de 20 nanomètres, alors c'est les PM002, et les gaz grâce à 8 couches de filtration, dont un spécialisé dans l'arrêt des nanoparticules. Tout ça reste respirable, bien sûr, évidemment, et associé à un tissu dit déperlant pour éviter la transpiration. Il s'appelle tout simplement R majuscule-pur.
Et ça peut se trouver directement en pharmacie ?
Je ne sais pas si c'est vendu en pharmacie, en tout cas, bon, c'est sur Internet.
D'accord.
Voilà. Il est réjouissant de voir de plus en plus de cyclistes dans les villes aussi, mais bon, je pense que ce serait plus prudent de porter un masque alors là, parce que dans ces déplacements, forcément, on est gazé, quoi. Après, même si nous voulons, donc par exemple, par cet ensemble de mesures, réduire le fardeau de la pollution aérienne, soyons réalistes, c'est-à-dire qu'il est impossible d'y échapper complètement. Donc, nous verrons bien sûr comment réduire la pénétration de ces polluants dans notre corps, comment les bloquer, comment les éliminer, comment les neutraliser, principalement dans le foie. Pour aujourd'hui, je vous propose une petite présentation de deux protecteurs qui sont sur le front de nos bronches. La vitamine C et la N-acétylcystéine. Alors, la vitamine C, tout le monde connaît, hein, c'est un antioxydant, bien sûr. Mais le fait qu'il soit antioxydant déjà est très utile pour nos bronches, parce que tous ces polluants sont des pro-oxydants, pro-inflammatoires. Mais la vitamine C, ce qui est beaucoup moins connu, hein, c'est un chélateur des particules et molécules qui nous agressent. Ça veut dire que la vitamine C les bloque. Le problème est que chaque fois qu'une molécule de vitamine C bloque un polluant, elle ne peut plus en bloquer d'autres. Donc elle s'épuise. Chez les asthmatiques, si on aspire leur fluide bronchique, on découvre qu'il est appauvri en vitamine C, parfois totalement dépourvu. Il s'agit donc, étant donné que nous sommes supplémentés chaque jour en polluant, de nous complémenter en vitamine C pour mieux résister. Ceci d'autant plus que la vitamine C reste capable de bloquer des polluants déjà passés dans le sang et de les entraîner vers l'excrétion urinaire. Un autre avantage de la vitamine C, c'est qu'elle peut recycler notre détoxifiant universel, qui s'appelle le glutathion. Alors, qu'est-ce que c'est que le glutathion ? Ben, c'est un tripeptide, ça veut dire tout simplement l'assemblage de trois acides aminés, hein, les briquettes qui forment nos protéines. Ce glutathion, s'il peut bloquer, comme la vitamine C, de nombreux polluants, se retrouve soit éliminé avec le polluant, soit oxydé. Donc, il faut apprendre à le renouveler ou à le recycler. Les trois acides aminés concernés sont la glycine, l'acide glutamique, qu'on connaît plus sous le nom de glutamate, et la cystéine. Nous ne manquons pas, pour la plupart d'entre nous, ni du glutamate, ni de glycine. Par contre, la cystéine, elle, est souvent surutilisée pour de nombreuses fonctions, dont la détoxification, justement. C'est ce qu'on appelle l'élément limitant de notre capacité à refabriquer ce protecteur majeur qui s'appelle le glutathion. On verra qu'il est partout dans tous nos organes, y compris le cerveau, pour nous protéger.
Ils sont complémentaires, alors, les trois?
Exactement. Mm-hmm. Vitamine C et cystéine, on va le voir, c'est une synergie, hein, c'est-à-dire ça marche ensemble. Alors la cystéine, elle est très réactive, elle est très sensible, elle est protégée sous une forme dite N-acétyl, c'est pour ça qu'on parle de N-acétylcystéine. Ça lui permet d'ailleurs de traverser plus facilement les membranes de nos cellules qui sont faites de lipides, de graisse. Ça ajoute à ça que la cystéine permet d'augmenter le mucus bronchique, ce qui nous sert à refouler, hein, comme un tapis roulant, expectorer des bactéries, les virus et les polluants. C'est donc la raison, comme vous l'avez intuitivement senti, Ombline, de cette association fondamentale pour les opérations de détoxification, vitamine C plus NAC, le petit nom de la N-acétylcystéine. Alors je dirais juste pour conclure, hein, pour être très pratique, puisque c'est le but de cette émission, hein, après les peurs, les frayeurs qu'on peut se faire avec tous ces agresseurs, c'est une émission dédiée à la protection. Mmh. Cette dose optimale de vitamine C basique, elle est de 500 mg par jour. Attention, c'est beaucoup plus que ce que l'alimentation. Même si vous mangez vos 5 fruits et légumes frais par jour, eh bien, vous atteignez 120, 150 maximum de vitamine C. Donc, c'est juste pas atteignable par l'alimentation. Donc, c'est un complément qu'il faut pas prendre en une seule fois. Attention, parce que une telle dose trop élevée serait mal absorbée.
Oui, c'est sur la durée.
Même laxative, hein, ça donne des diarrhées. Donc, c'est pas vraiment le but recherché.
Non.
L'idéal, c'est de la prendre en deux fois, donc 250 mg en fin de deux repas.
Il y a des précautions quand même à prendre avant de commencer?
Pour la vitamine C, ou... Non, aucune précaution. Pour la vitamine C, a quasiment pas de contre-indication. Donc, en cas de pollution plus forte, on peut par exemple plus l'hiver que l'été, parce qu'on est plus à l'intérieur, il y a plus... en général, les pics de pollution sont plus l'hiver que l'été, mais évidemment, en fonction de l'environnement et dans lequel on se trouve, on peut ajouter entre les repas 125 mg de vitamine C, mais pas plus, en dehors des repas, toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, ou même toutes les heures, s'il fallait, dans des situations les plus mauvaises. Bon, quant à la fameuse NAC, la dose basique est de 200 mg par jour, mais bon, ponctuellement, si on se trouve dans une situation de pollution vraiment intense, on peut aller pendant quelques jours jusqu'à 500 mg. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelques mesures qui commencent à nous protéger de ces agressions quotidiennes. Vous rappelez qu'ils sont responsables de nombreuses maladies, même pour la pollution aérienne, hein, ce qui était l'objet de beaucoup de scepticisme au départ, mais malheureusement, c'est archi prouvé que c'est une source d'hypertension, de pathologie cardiovasculaire, de maladie d'Alzheimer et de Parkinson, j'en passe et des meilleurs, et d'un raccourcissement tout simplement de la vie en bonne santé. Il me semble donc qu'il serait indispensable que telles informations soient données dès l'école primaire aux enfants. Bon, souvent l'adolescence, ils ont d'autres préoccupations. C'est un peu tard pour inculquer les bons comportements parce que l'ado, comme on le sait, il aime bien prendre des risques et se différencier.
Se teste. Hein.
Donc c'est pas le meilleur moment. Mais c'est pareil pour l'éducation à l'alimentation, à tout ce qu'on veut. Donc ainsi qu'aux médecins d'ailleurs, qui et autres professionnels de santé évidemment, qui malheureusement n'ont pas ce sujet au programme de leur formation.
Merci beaucoup, Jean-Paul.
Mais je vous en prie, Ombline, et puis voilà, j'espère surtout que ça va vous aider à vous sentir mieux dans notre environnement qui, malheureusement, s'est dégradé encore énormément ces derniers temps.
Et évidemment, on continue d'en parler la semaine prochaine concernant les contaminants. Merci à toutes et tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr. Vous y trouverez des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts, ainsi que des émissions, des documentaires exclusifs. Une nouvelle masterclass aussi est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et rester surtout à la pointe de la santé intégrative. Rendez-vous sur nutritv.fr. À bientôt, Jean-Paul. Bonne journée.
Voilà, à bientôt et bonne journée à tous.
Nutri Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.